Hors les murs, une émission enregistrée en public sur Radio Sainte-Afrique.
Bonsoir, merci d'être présent à nouveau. Juste avant la projection, je voulais simplement préciser que donc, nous sommes contents aussi ce soir de travailler avec Radio Sainte-Afrique qui donc va enregistrer ce qui va se passer, bon, bien sûr pas le film, mais notamment les débats. Merci Yves en tout cas d'être là. Les allumeurs de réverbères donc, organisent ce soir avec l'association Touzolana Accueil cette soirée autour de l'évolution des droits des migrants sur le sol français. Nous recevons avec grand plaisir et grand intérêt ce soir Neus Viala, réalisatrice du documentaire que nous allons regarder, La Spirale. Et Sébastien Nadeau, ex-député et défenseur inlassable des droits de l'homme. Je n'en dis pas plus, je laisserai à Myriam le soin de vous présenter plus longuement juste après. Hasard de l'actualité, il y a quelques semaines, peu de monde avait entendu cet acronyme CRA, Centre de Rétention Administrative. Ce qui est associé depuis quelques semaines à ces mots, c'est un amalgame de mots, crime, délinquant, prison, délai, attente, sécurité, expulsion, OQTF, avec pour conséquence de donner à tous les migrants qui y sont retenus une connotation suspecte, voire criminelle. Nous souhaitons ce soir apporter un regard différent sur ces structures où sont maintenues enfermées des personnes, alors même qu'il y a très souvent pour elles impossibilité d'appliquer la fameuse mesure d'éloignement OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui leur a été signifiée. Ces migrants y sont majoritairement enfermés pour la seule raison de ne pas avoir les bons papiers. Nous reviendrons, si vous le souhaitez, dans la soirée sur la petite phrase du ministre de l'Intérieur qui affirme que tous les migrants en CRA sont dangereux. Ou comment faire croire à la criminalisation de ces personnes et donc de justifier la présence de ces CRA. Je vous précise quelques points avant de passer la parole à Myriam. Les personnes, quand elles sont emmenées dans un CRA, c'est qu'elles ont reçu une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, que les recours ont échoué. Elles y sont emmenées suite à un contrôle de police banal, sur la route, dans une gare, à la sortie de l'école, aussi à domicile, ou même lorsqu'elles se rendent à la préfecture pour déposer un dossier, mais aussi bien sûr quand si elles sortent de prison. Autre point, la durée moyenne de rétention en CRA est de 28,5 jours en 2023, contre 23 jours en 2022, et on sait que ce chiffre va encore augmenter. Au centre de rétention administrative de Cornebarieux, que nous allons voir donc dans ce documentaire, 1479 personnes ont été placées en 2023. 27,9% d'entre elles ont été éloignées, puisque donc une OQTF, c'est une mesure d'éloignement. Et vous pourrez voir donc sur les affiches des chiffres qui sont assez parlants, puisque donc en 2023, il est question de 46 955 personnes voilà, qui ont été placées donc, dans un CRA en France, dont 17 000 dans l'Hexagone. Les autres personnes le sont sur, principalement à Mayotte, en fait, hein, et également des enfants. Autre point que je tenais à préciser, c'est que les CPAR, dont vous avez peut-être commencé à entendre parler, les centres de préparation au retour volontaire sont des structures qui sont complètement différentes des CRA. Ce sont donc, comme leur nom l'indique, des lieux où les personnes sont accueillies par l'OFI, enfin, ou des, en tout cas des aides de l'OFI, pour donc préparer leur retour, notamment régler des problèmes administratifs sur des délais plus ou moins longs, puisque officiellement elles peuvent y être un mois ou deux, mais parfois au bout de quatre mois, ce n'est pas du tout réglé encore. Et avec donc les fameux laissez-passer consulaires qui sont donc demandés à ce moment-là par les personnes qui souhaitent repartir, mais qu'elles n'obtiennent pas forcément en fait. Voilà, en tout cas, tous les chiffres que vous avez indiqués là sont tirés du rapport annuel de 2023 qui a été coécrit par cinq organisations, dont la CIMAD. Et la CIMAD, nous allons voir hein, des représentants, plus exactement des juristes, en fait, hein, qui interviennent au quotidien dans le CRA de Cornebarieux. Cette association qui défend la dignité et les droits de chacun se bat pour la reconnaissance des migrations comme composante essentielle de notre monde et cherche donc à déconstruire les stéréotypes et combattre la désinformation. Voilà, je passe le micro à Myriam qui va vous présenter donc un peu plus spécifiquement nos intervenants et puis le documentaire.
Bonsoir donc. L'association Touzulana accueille, en collaboration avec les allumeurs de Riverbère, vous remercie de votre présence ici ce soir. Alors que depuis la loi immigration, les OQTF prononcées explosent, que la droite décomplexée est aux manœuvres, que l'extrême droite tire les ficelles, il nous faut dénoncer cette politique d'exclusion et de racisme qui s'installe de plus en plus fortement. Néous Viala, inlassablement, à travers ses documentaires, nous ouvre les yeux et porte haut et fort la voix des réfugiés d'aujourd'hui. Après la projection de l'excellent documentaire La Spirale, nous aurons la possibilité d'échanger avec Néous Viala, la réalisatrice, et Sébastien Nadeau, présent dans le documentaire. Néous Viala est une réalisatrice engagée. Ses documentaires, 12 réalisés en 20 ans, sont les reflets de sa détermination prompte à éclairer, à dénoncer, à nous aider à appréhender l'inhumanité de notre époque. Néous Viala a réalisé une trilogie cinématographique qui explore les parcours d'immigrés, marqués par l'incertitude et l'angoisse, mais aussi par l'espoir et la détermination à vivre, aimer et travailler malgré les obstacles. Son film est essentiellement tourné autour du CRA, Centre de rétention administrative de Cornebarieux, tout près de Toulouse. Les DVD de ses films sont en vente ici, à la fin de la soirée. Sébastien Nadeau, membre de la Ligue des droits de l'homme, est un ex-député qui, de mai 2021 à novembre 2021, a été président de la commission d'enquête parlementaire sur les migrations et les conditions de vie et d'accès aux droits des migrants, réfugiés et apatrides. Militant infatigable contre toutes les attentes aux droits humains, il a aussi de nombreuses cordes à son arc. Par exemple, ce soir, il nous fera le plaisir de terminer le débat avec quelques-unes de ses chansons, dont une dernière qu'il a écrite et qui a pour titre « OQTF ». Bonne soirée à tous.
Bonsoir, deux mots pour vous remercier d'avoir les organisateurs de cette soirée et vous d'être présents ce soir. Donc je pense qu'à la fin, on aura un débat intéressant par votre participation, par vos questions. Et puis je remercie Sébastien Nadeau aussi d'avoir fait l'effort d'être là ce soir et de pouvoir répondre plus précisément dans le domaine dans lequel il est intervenu dans le film et peut-être au-delà. Et voilà, donc c'est tout. La communication a été très bien assurée. Je vous remercie beaucoup, autant dans la presse que à la radio, les émissions qui ont été faites. Et donc, je pense que ce n'est pas votre présentation, mais agréable, tout ce que vous avez dit. Et donc, j'attends tout à l'heure, à la fin du film, vos critiques, vos questions, ce qui n'est pas dit, mais qui est peut-être dit dans le prochain documentaire que je suis en train de présenter aussi, qui s'appelle Éclairage, un peu plus d'espoir. Pour s'informer, continuer à s'informer, puis à échanger. Et c'est la grande chance du cinéma aussi de pouvoir échanger quand vous organisez des soirées. Voilà, mon film, et à tout à l'heure.
Le film documentaire La Spirale, réalisé par Neos Viala, est diffusé sur l'écran. Il apporte des éclairages nouveaux sur l'enfermement des étrangers privés de papier, les pratiques administratives et judiciaires auxquelles ils sont confrontés et sur le vivre ensemble aujourd'hui en France. Dès la fin de la projection, c'est Sébastien Nadeau, ancien député, qui prend la parole pour introduire en chanson le débat qui va suivre.
On veut être réélu, il faut faire autrement. Et comme moi, je m'étais donné, je vais tout casser, comme je m'étais donné comme objectif que devant ma télé, j'arrêtais pas de râler après tous les gens qui font 10 mandats, là, etc., je me suis dit, si je suis élu, j'en fais un et puis je m'en vais. Donc c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas candidaté une deuxième fois en 2022. Je ne sais pas si j'aurais été élu, hein, mais... peut-être d'ailleurs, mais je me suis dit que c'était intéressant de faire l'expérience vraiment d'être représentant et seulement représentant, c'est-à-dire qu'on est complètement libre dans ses décisions, on n'est pas en perspective de sa carrière politique. On n'est pas en perspective de si on ne donne pas ça à un ministre, après, le coup d'après, il ne va pas nous arranger ça, etc. Donc j'avais une liberté dans mes choix qui était assez forte, et ce qui m'a permis aussi d'être assez critique et de faire le travail de parlementaire que les parlementaires globalement oublient de faire. C'est pourtant inscrit dans la Constitution, un parlementaire... Ça a trois missions. Voter les lois, donc participer à l'élaboration et puis les voter ou voter contre, en tout cas se positionner. Évaluer les politiques publiques. Alors là, globalement, il y a encore une présence assez significative des parlementaires. Et le troisième aspect, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Alors là, c'est limite... Enfin, moi, quand j'ai été élu député, je ne le savais pas. Hein. Donc j'ai pris la Constitution, je me suis dit « qu'est-ce que je vais faire ?» Puisque j'ai ce mandat, ce truc, je l'ai voulu, mais je me suis rendu compte que je ne savais pas du tout ce que c'était qu'être député. Et contrôler l'action du gouvernement, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que qu'on soit dans la majorité ou l'opposition, il y a un certain nombre d'engagements, il y a une parole du chef de l'État, du gouvernement, et ben, on doit vérifier à tout moment que cette parole et ces engagements sont respectés. Par exemple, au moment de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche en 2020, on a fait une loi de programmation, donc un budget pour 5 ans. Et il y avait une augmentation du budget de la recherche à partir de 2025. C'est-à-dire qu'on a voté le truc en 2020 et la trajectoire, c'était un petit budget toujours pour la recherche. C'est pas important, la recherche. Donc 2021, 2022, 2023, 2024. Et à partir de 2025, là, ça explosait. Et donc on avait un président de la République qui disait « La recherche, regardez, c'est mon affaire. Un budget jamais atteint pour la recherche en France. Manque de bol. Le budget, il est complètement pété. Là, on est en 2025. Et le moment où ça devait augmenter, ça baisse. » Donc ça, typiquement, normalement, les parlementaires, ils devraient tous être vent debout en disant « Non, mais attendez, la loi de programmation militaire, on respecte la trajectoire budgétaire, mais la loi de programmation de la recherche, on ne respecte pas la trajectoire budgétaire. » Donc là, vous avez une augmentation du budget de la défense et on dit « Ah ben, il faut bien respecter la loi de programmation pluriannuelle de la défense, mais pour la loi de programmation de la recherche, on ne respecte pas. » C'est une petite aparté pour dire que c'est extrêmement difficile dans le jeu politique français de pouvoir être libre et vraiment libre de ses choix. Et c'est toute une gymnastique pour les parlementaires. Et c'est pas forcément parce qu'on est godillot, parce que ceci, parce que cela. Mais si on veut rester, survivre Et ça a de la pertinence de faire 2 ou 3 mandats. On a de l'expérience, on est meilleur. Vous avez Charles Lecourson qui s'occupe des questions budgétaires, qui est rapporteur du budget. Il n'y a pas meilleur. Bon, ça fait 5-6 fois qu'il est député de suite. Donc l'expérience aussi, c'est intéressant. Mais en tout cas, on a un problème dans notre démocratie, c'est que les parlementaires, ils sont obligés de jouer les super conseillers départementaux pour être réélus. Et donc on se bouffe le nez avec les conseillers départementaux qui font bien, s'ils font bien leur travail. Et on ne fait pas un mandat de représentant national. Et c'est toute une difficulté. Et pour faire le lien avec la question des migrations, ben comme les parlementaires, ils sont obligés de s'inquiéter de leur réélection, ils ne vont pas s'occuper des trucs chiants et qui n'intéressent personne électoralement parlant. Donc les migrants, à part le côté électoraliste de la théorie du bouc émissaire qui a été mis en place il y a bien longtemps, hein, même dans l'Antiquité, hein, on travaillait déjà sur on va mettre des gens comme bouc émissaire et puis toutes les conneries qu'on fait par ailleurs, c'est pas grave, personne ne le verra puisqu'on a nos boucs émissaires qui sont là. Donc là, on est en plein dedans, on nage en plein délire du bouc émissaire, l'étranger, l'étranger pas riche, hein, celui qui a des yachts sur le cas des milliardaires à Antibes, tout va bien pour lui. Mais donc, cette question des migrants, ben, en fait, les parlementaires s'en emparent pas, sauf pour faire de la com', comme je vous le disais, ils s'en emparent pas parce que c'est pas électoraliste, c'est pas des gens qui votent, mais de la même manière, l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, qui est une catastrophe absolue dans notre pays, personne s'en empare non plus parce que c'est pas électoraliste et ainsi de suite, les gens qui dorment toujours dehors à la rue alors que le président en 2018 a annoncé que plus personne dormirait dans la rue, mais on a oublié la promesse, hein. Qui contrôle? On devrait dire, mais attendez, annonce en 2018, pas suivi des faits. Les OQTF, Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, président de la République, ministre de l'Intérieur, ont, en 2021-2022, à chaque fois, dit « il y aura 100% d'OQTF ». 100%. Alors que n'importe quelle personne qui est dans le système administratif va vous dire que c'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Donc on est dans ce schéma. Alors, moi, j'ai vu ce documentaire plusieurs fois, mais à chaque fois, on en tire des richesses. Néous, je l'ai croisé ben, un petit peu avant qu'il soit tourné. J'étais un petit peu désespéré quand même de mon parcours parlementaire, parce que je ne sais pas si j'ai réussi grand-chose. Mais le fait est que quand j'ai croisé Néous... Elle voulait aborder ce sujet des centres de la rétention administrative que personne connaît en France. Moi, j'ai habité 10 ans à Nice, à côté d'un CRA, et je l'ai visité en 2022 dans le cadre de la commission d'enquête dont j'étais président, mais je ne savais même pas qu'il y avait des gens enfermés là. Et donc ce travail de Néous, il est extrêmement précieux parce qu'il porte à la connaissance quelque chose qu'on ne sait pas. Mais dans notre pays, on enferme des gens, non pas parce qu'ils ont commis un délit, non pas parce qu'ils doivent quelque chose à la société, mais parce qu'ils n'ont pas de papier. Et tenez-vous bien, on enferme encore en 2024, des enfants, avec toutes les conventions internationales qu'on a pu mettre en œuvre, même parfois être à l'origine, la France, eh bien, on enferme des enfants encore aujourd'hui. Le rapport de la CIMAD le dit, en 2024, c'est encore arrivé. Et donc, il y a un sujet qui est extrêmement fort quand on parle de respect de la dignité humaine, c'est celui de l'enfermement. Et les prisons sont indignes dans les conditions d'accueil, vous le savez, mais les CRA, dans la logique même de leur présence en termes d'outils d'organisation pour s'occuper des étrangers, c'est aussi quelque chose d'absolument indigne d'un point de vue humain. Et donc, quand j'ai rencontré Néous, elle m'a demandé si je pouvais témoigner. Donc, j'ai témoigné, j'ai fait ce témoignage. J'ai essayé de la faire rentrer au CRA de Cornebarieux, mais c'est top secret défense. Donc, moi, je pouvais y aller, mais il fallait surtout pas qu'une documentariste pénètre à l'intérieur, parce qu'elle allait divulguer des secrets incroyables. J'ai encore vu des gens dans des situations psychologiques, et pour cause, hein, mais qui ne comprenaient pas du tout pourquoi ils étaient enfermés. Mais vraiment, l'échange, c'était « mais on ne sait pas pourquoi on est là », avec leurs mots, avec parfois un français qui était imparfait. Et donc, quand dans le film, on voit, là, je suis ulcéré, hein, à la sortie là, du CRA, j'en ai vraiment ras-le-bol. Et ce ras-le-bol, j'ai essayé de continuer de le porter à l'Assemblée le temps qui me restait, l'année 2021-2022. Mes conclusions sur la vie politique du moment, c'était qu'il fallait essayer de pousser des pions un petit peu ailleurs, parce que la situation qu'on connaît relative à la question migratoire et tous ces gens qu'on maltraite, elle date pas d'hier. On parlait tout à l'heure de la période Sarkozy, qui a quand même été un grand moment de bascule, mais je vous rappelle quand même que sous Chirac, quand on parlait des migrants, c'était le bruit et l'odeur, hein. Donc c'est pas quelque chose de neuf en France que cette manière de traiter le sujet. Mais avec Néous, moi j'ai retrouvé de l'espoir. Parce que je me suis dit que si dans le milieu politique, c'était sacrément difficile d'avancer, il y avait le tissu associatif, dont vous êtes pour la plupart. Il y a plein de gens de bonne volonté qui sont éclairés sur le sujet quand même. Et puis, il y a les artistes. Et je crois que les artistes, on ne les entend pas assez, qu'il faut travailler le sujet. J'ai Néous qui m'a demandé « Mais tu vas faire quoi alors une fois que tu auras fini ton mandat ?» Et à ce moment-là, je lui ai dit « Je vais reprendre ma guitare. » Et bien, je l'ai fait. Voilà. C'est long hein, comme introduction. Hein. C'est promis, après, je parle moins. Donc la chanson, ça s'appelle « OQTF », mais ça s'appelle aussi « Oh, que t'es fou ». Dans tous les pays du monde, tu esquives les frontières, Briançon, Calenice, Cerbère, Andaille, passant Tropez, la peur, le froid, le noir, noir, noir. Vivre libre est un droit, c'est ce que tu crois, plus moi, c'est ce que tu crois, plus moi. Bafoué, traqué, chassé, cogné, aux ordres du préfet, puni, raillé, touché. L'ordre policier. Que font ces gens enfermés? Personne ne donne de réponse. Elle ne coûte pas cher ta vie. Au pays de l'utopie, l'exploitation ménage, nage. Poubelle ou livraison, c'est ça ton horizon, non, non. Alors placement en rétention, garde à vue, retenue, tout nu, on t'interdit de rêver. Régime autoritaire, terre, terre, loi d'exception, bidon, décision judiciaire, pas fière,
émissaire pas cher. Politique, assassin, malsain, anéantissement. Que font ces femmes enfermées? Médias fachos, dodo. Elles ne coûtent pas cher ta vie.
Quelques images pour le débat qui vient. Donc, moi, je vais poser une question à Neus, parce qu'on ne s'est pas vu depuis le mois de juin. Chaque mois, elle prend un petit peu plus de sagesse et de recul. Mais moi, je suis toujours aussi perturbé par un truc, c'est comment t'en es venu à t'inquiéter de gens comme ces gens qu'on voit pas directement parce qu'on sait les difficultés de présenter à l'écran des gens dans des situations aussi difficiles, mais comment t'en es venu à réaliser un film comme ça? On dit un documentaire ou un film?
C'est un film documentaire. Bon, moi, je prends la parole après la fin du film et je ne vais rien ajouter à ce qui a été dit donc, sur le problème que nous avons eu, que nous n'avons pas pu résoudre, mais on vous remercie beaucoup d'avoir eu la patience et d'avoir appris, j'espère, pas mal de choses donc, sur ce qu'on a voulu vous montrer. Moi, je remercie beaucoup Sébastien pour la chanson à laquelle... sur laquelle on avait pas mal échangé, on va dire, et tu as échangé. C'est la première fois que je l'écoute comme ça. Et je trouve que c'est formidable qu'on puisse, grâce à votre accueil, à l'organisation de cette soirée, de présenter ça, de cheminer pour la plupart d'entre nous, et vous pourrez peut-être faire cheminer d'autres personnes aussi après cette soirée. Et avec ce film, donc finalement, on n'est que des outils, on va dire, pour transmettre ce qu'on apprend, ce qu'on vit, ce qu'on a vécu. Et... Bien. Donc, pour répondre à ta question, moi, je suis émigrée et je suis arrivée en France parce que mon mari était français. Et j'ai quitté la dictature de Franco. Et j'ai pu vivre en République et en démocratie. Et petit à petit, j'ai compris ce que c'était.
mais je n'avais pas été préparée à le comprendre par mes parents républicains. On avait vécu en Espagne pendant le franquisme. Mais ce que je suis devenue, je suis grâce à vous et à ce que vous ont procédé, parce que j'étais accueillie et parce que j'étais dans tout mon parcours reconnue. Donc, nous avons eu deux enfants. J'ai pu enseigner l'espagnol à des élèves. J'ai pu continuer des études. Et voilà, j'en suis arrivée à faire des études à l'école normale d'audiovisuel de Toulouse. Bon, tout ça, c'est un peu magique, comme c'est magique de me retrouver aujourd'hui devant vous. J'ai jamais imaginé ça il y a 25 ans. Bon, donc... Et je n'ai pas imaginé qu'un jour j'aurais pu travailler avec toi et qu'on aurait pu apprendre l'un de l'autre. Donc je trouve que ça, c'est plein d'espoir. Plein d'espoir parce que des fois, comme là, quand tu chantais, je me disais, mais on n'aurait pas pu imaginer quand tu étais dans les images que j'ai vues à l'Assemblée nationale, on n'aurait jamais pu imaginer que moi, je pouvais te parler après. Et est-ce que je pourrais parler à ceux qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la loi des immigrés et... Enfin, j'ai parlé déjà à Darmanin hein, en écrivant un poème. Quand je l'ai vu à l'Assemblée nationale, j'ai écrit un poème qui est d'ailleurs dans l'interview que Joseph a fait. M'a fait. Bon. Donc là, je ne sais pas si j'ai répondu. Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu l'exil pour d'autres raisons que moins dures. Mais n'empêche que j'ai connu, je sais ce que c'est de me séparer de ma famille, de me séparer d'un pays que j'aime, de me séparer, même si je pouvais y revenir. Pas si facile que ça, à l'époque où je suis venue arriver en France, et quitter une langue, même deux, j'en ai quitté, puisque ma langue maternelle, c'est le catalan, que je l'écris, je le parle couramment, et quitter son pays, ses parents, les amis, tout le contexte culturel pour en intégrer un autre, progressivement, et encore aujourd'hui, il y a des choses, je dis, je pourrais mieux parler le français, je pourrais mieux faire ceci. Mais bon, ça, c'est presque un détail, mais c'est dire que quand on dit il faut qu'ils s'intègrent, que les étrangers s'intègrent, tout ça, mais qu'est-ce que... Enfin, vous faites beaucoup. Donc, je vous remercie. Je m'arrête là. Je pense qu'il y a des questions.
Juste une question à tous les deux. Aujourd'hui, avec Retailleau, avec ce gouvernement, etc., comment est-ce qu'on peut garder l'espoir pour aider les réfugiés, les exilés?
Je crois que l'espoir, il faut le garder avec les belles expériences que vous avez. Et d'imaginer qu'est-ce qui se passerait si vous n'étiez pas là. Nous, au Cercle Voisin, dont je fais partie, de l'association du Cercle des Voisins du Croix de Courneuve-Barrieux, donc on voit qu'on est de plus en plus maltraité quand on assiste aux audiences aux juges de liberté pour les sans-papiers. Qu'on est de plus en plus maltraité, qu'eux sont de plus en plus maltraités, qu'il y a de plus en plus de gens malades, que la politique qui est menée provoque ces malheurs. C'est-à-dire que chaque fois on nous fait croire qu'ils vont arranger la situation, on augmente les jours de permanence, les gens ne sont pas bien au CRA et ils deviennent de plus en plus agressifs. Les policiers nous disent, nous on a postulé à la police, on est entré dans la police, on n'est pas gardien de prison, c'est un autre métier. Ils pourraient l'être, mais ce n'est pas ça qu'ils voulaient faire. Et là, ils sont gardiens de prison avec des situations pour lesquelles ils n'ont pas été préparés. Donc ça, c'est grave. Donc on voit progresser, les choses vont de plus en plus mal. Et maintenant, il va y avoir, il y avait déjà la nouvelle loi, mais tout ça, je reviens à la loi, parce qu'il n'y a pas que la loi. On a entendu hier, je crois, qu'il y a, il a les, il allait y avoir donc des... ça va être géré par des ordonnances, par des décrets, c'est-à-dire des choses qui peuvent évoluer, puis peuvent disparaître, revenir, ça ne passera pas au Parlement. Donc on enlève notre capacité de citoyen, et je crois que vous l'avez plus que je ne peux l'avoir, enfin, même en ayant quitté la dictature et sachant ce que je gagnais, mais vous l'avez, la plupart d'entre vous, depuis la naissance. Depuis votre famille, pour certains, ils l'ont acquise, et comme Constance, elle dit le plaisir et la joie qu'elle a eue de pouvoir parler. Elle dit, maintenant je peux parler. Ah bon ? Avant, elle ne pouvait pas parler. Voilà. Et dans l'éclairage, donc, il y a une partie importante aussi du témoignage d'un jeune afghan de 34 ans qui parle de son enfance et de son parcours jusqu'à l'arrivée près de là où j'habite et que je connaissais avant même de l'interviewer. Il savait qui il était, un peu son passé. Et donc ce témoignage est très... Et puis tu es aussi, finalement, tu parles de... J'ai inversé dans les deux documentaires les interviews que je t'ai faites. Parce que moi, la première interview à Sébastien Adot, c'était pour le faire parler de son rôle de président de la commission parlementaire.
C'est le documentaire suivant.
Et... Et ça, c'est dans le suivant. Donc, il parle donc de sa présidence en tant que parle de la commission d'enquête parlementaire sur l'immigration. Et à la fin, donc j'avais gardé à la fin une question. Je voulais lui demander si c'était d'accord pour aller faire une visite au CRA de Cournevalieu et de l'interviewer à sa sortie. Parce que moi, ce qui m'intéressait davantage, c'était savoir, je savais ce qui se passait au CRA, et je voulais savoir quel était son avis après le travail d'enquête parlementaire. Je ne savais pas quelle était la réponse, parce que moi, j'étais assez impressionné à la première interview que vous verrez donc sans doute au prochain film, Éclairage, avec vos meilleurs sons et sans problème. Et donc... et en fait, tu m'as dit tout de suite oui, et alors que moi j'étais très intimidée de cette interview. Enfin,
il faut parler de l'espoir.
Oui, oui. Et donc, bon, dans après, donc, quand tu es sortie, il faisait une chaleur près de 40 degrés. Quand on est allé, c'était pas prévu, moi, dans les scénarios, j'avais pas prévu de courir derrière toi parce qu'il faisait très chaud, on voulait entrer vite. Bon, ça, c'est des anecdotes. Mais allons au fond de la question. Je pense que vous avez une expérience d'accueil, d'OQTF, de situations difficiles et que vous y faites face et que vous êtes un pays d'accueil aussi. Donc, moi, je transmettrai aussi, je transmets ce que je reçois de vous.
Je vais répondre plus vite que Neus. Sur l'espoir, si on regarde objectivement, lucidement notre système global planétaire, c'est sans espoir. Si on regarde le système institutionnel français et son incapacité à se réformer et à amener les transformations qui nous sont nécessaires, c'est sans espoir. Mais si on vient échanger, discuter avec des gens qui arrivent de n'importe où de la planète, et qu'on se retrouve avec eux, et puis qu'on passe une journée, une soirée, là, il y a plein d'espoir. Donc, en fait, moi, ce que je pense, tout simplement, c'est qu'on a un système global qui est en dysfonctionnement total. Au milieu de ça, on a un des pays phares des droits humains, des droits universels qui part en cacahuète, le nôtre. Et en dépit de tout ça, on a une société qui est quand même pas si con que ça, qui se fait berner régulièrement, parce qu'à force de se faire rabâcher les boucs émissaires, ils sont comme ça, ils mangent les enfants, etc. Enfin, on va y arriver bientôt. Bien sûr qu'on induit des premières réactions qui sont très négatives, mais dès qu'on est dans la relation avec des gens qui viennent d'ailleurs, etc., on retrouve l'espoir. Pascal, tout à l'heure, il va nous lire un poème qui est un poème triste. Pascal, il nous revient, enfin, ça fait quelques mois de Gaza, médecin urgentiste, et il parlera mieux que moi de tout ça, mais objectivement, quand on est allé à Gaza, la vie, elle est sans espoir. Sauf que on sait aussi qu'à l'intérieur, on a un truc qui nous fait vibrer parce qu'on fait quelque chose pour les autres, parce qu'on fait quelque chose avec les autres, parce qu'on a besoin de le faire avec les autres. Et c'est dans cette relation du quotidien, des hasards, des rencontres, qu'on finit par faire des choses, des rencontres qui sont extraordinaires dans nos vies. Somme toute assez banale. Là, on a une occasion de faire quelque chose de très chouette. Moi, j'ai eu, ça fait 5 ans que je suivais une maman gabonaise avec ses 3 enfants. Donc, elle a toujours pas de papier. Son plus grand, qu'on a fait rentrer en apprentissage, a un titre de séjour. Et sans papier, on a réussi à lui trouver un emploi légalement validé par la préfecture. Donc me demandez pas comment on fait, parce que moi je comprends toujours pas, mais voilà, l'espoir il existe de temps en temps. On arrive, il faut bagarrer, c'est une lutte, hein. C'est une lutte un petit peu, c'est notre Sisyphe à nous, hein. C'est une lutte, et puis à peine on a réussi à sortir un petit peu quelque chose, quelqu'un de la misère, que paf, on retombe sur un groupe où on se dit c'est pas possible de les laisser comme ça. Mais l'espoir, il est dans le moment où on est avec les gens. C'est tout simple, en fait. L'espoir, c'est hyper simple. Et puis notre... Moi, je suis toujours enthousiaste quand je me dis mais peut-être qu'on arrivera à faire un petit peu mieux que la situation merdique actuelle. Donc l'espoir, il est dans plein d'endroits, dans plein de moments. Et c'est aussi ça, moi, que j'ai toujours envie de partager. Il y a tellement de gens, quand même. La commission d'enquête, moi, j'ai sillonné le territoire français pendant 6 mois. Je suis allé un peu partout où ça déconne, que ce soit à Vintimille, à Calais, tous les points de passage frontière, les squats parisiens. Quand vous voulez, je vous emmène manger un couscous ou malien, etc. Je sais où il faut aller, à Aubervilliers et compagnie. À Toulouse, c'est pareil. Les Roms, c'est ma spécialité. Le fait est que on s'aperçoit qu'il y a une vie de ces gens qui est très dynamique, mais qu'il y a une vie associative autour de ces gens qui est incroyable en France, dont on ne parle jamais. On est dans la chanson, moi je parle des étrangers sans visage, mais les gens qui aident, ils sont sans visage aussi. On est un pays qui a un tissu associatif qui est super fort, qui est super riche. Et on se prend tout le temps des grosses baffes dès qu'on fait des choses. Donc c'est vrai que c'est un petit peu contrariant, mais l'espoir, c'est nous, quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça. Voilà.
Au départ, vous avez dit qu'il y avait en fait 30% des étrangers qui étaient éloignés à partir du CRA. Les autres, donc, sont relâchés, si je comprends bien. Pour quelle raison on les a gardés aussi longtemps, quoi ? Enfin, ma question, c'est en fait, est-ce que c'est une erreur d'appréciation au départ, au milieu, à la fin ? Je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, on les a enfermés alors qu'on ne devait pas les enfermer.
Alors, comme c'est expliqué par le monsieur qui est de la CIMADE et qui est à l'intérieur, ils ont une permanence à l'intérieur du CRA. Quand on prend sur les 15 dernières années, le délai légal d'enfermement dans les CRA, qui était de 7 jours, est passé à 12 jours, puis 15 jours, puis un mois, et puis on est à 90 jours. Et puis, dans certaines situations, on remet une pièce et puis on reprend 90 jours. Bref, Donc la réalité, c'est qu'on est dans un pays où on persécute la personne qui n'a pas de titre de séjour. On persécute. C'est là où on a institutionnalisé quand même quelque chose qui est fondamentalement un problème. En tout cas, quand on regarde la Constitution française, le préambule, c'est quelque chose comme « Le peuple de France proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme ». Ça commence comme ça, hein, notre Constitution. La Constitution, c'est le texte suprême dans la hiérarchie des normes. Même les textes européens, on arrive juridiquement à les foutre en l'air. C'est la Constitution. Sauf que là, il n'y a plus personne. Donc en fait, il y a un texte législatif. Le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'on allait encore augmenter le temps où on peut enfermer ces gens. Donc dans la pratique, il y a effectivement un certain nombre de gens qui sont expulsés. À partir d'une décision de justice administrative, laquelle est généralement assez mal fondée. Les magistrats n'ont pas le temps de travailler. Les avocats n'ont en général pas le temps de travailler. Donc ça fait des gens qui passent en justice, mais le mauvais côté de la justice, celle qui est sans moyens et qui se dit voilà, ces gens-là, ils passent, donc on s'en occupe pas vraiment. Les magistrats de là je parle de l'asile, par exemple, de la Cour nationale du droit d'asile, éventuellement, de 9h le matin à 13h, ils ont 7 personnes qui leur passent devant et ils prennent connaissance du dossier au fur et à mesure parce qu'ils n'ont pas eu le temps de travailler les dossiers en avance. Donc en fait, ils sont tenus de prendre une décision à l'issue de l'audience, mais qui n'est pas une décision éclairée. Et donc on parle de l'embouteillage de la justice par cause des migrants. C'est vrai qu'il y a un embouteillage, hein, c'est factuel. Mais c'est un embouteillage qu'on a créé. C'est un embouteillage qu'on a créé. On n'est pas obligé systématiquement de mettre tous ces gens devant la justice et encore moins de les enfermer. Et le monsieur là, dont il a été question, le papa de cet enfant qui est scolarisé, donc cette histoire, ça c'était en 2022. En juin dernier, on est allé avec Neus, il y avait un appel. Entre-temps, le papa, il a été obligé de repartir en Turquie. Il a été obligé de s'enfuir à nouveau. Enfin bref, un truc pas possible. Et en appel, son appel a été rejeté. Donc il est à nouveau susceptible d'être renvoyé. Sachant que c'est des gens, à force... Enfin nous, on les a rencontrés. C'est des gens... Enfin ils parlent français. Ils travaillent. L'enfant est scolarisé. Donc on ne sait plus pourquoi on fait ça. On en vient à un espèce d'acharnement à se dire mais la loi, il faut les expulser. Sauf que déjà, au regard des textes, dire qu'on le renvoie dans un pays sûr, oui, la Turquie est un pays sûr. Quand on a été un petit peu militant politique kurde, la Turquie devient quand même moins sûre. Donc renvoyer ce monsieur qui a eu le malheur de d'avoir une carte dans un parti politique en Turquie, c'est quand même... Et qui a eu des ennuis, hein, qui a eu des ennuis avec la police parce qu'il était dans ce parti, hein, en Turquie. Hein, donc c'est pas comme ça, on s'invente une situation compliquée. Donc la France, le magistrat dit « il peut bien y retourner et puis on verra, quoi ». Et la Convention internationale des droits de l'enfant, elle n'est pas respectée. Elle n'est pas respectée, tout simplement. Et des décisions de justice comme celle-là, forcément, avec... c'est ça qui évolue. C'est que on est passé de ministre de l'Intérieur de plus en plus ferme. Enfin, ça commence à faire un petit moment, hein, parce que on oublie quand même que Bernard Cazeneuve, qui devait être le représentant de la gauche là dernièrement, là, je comprenais plus rien, moi. Bon, mais moi, j'ai été un an macroniste, hein, donc j'ai peur de rien. Mais je me suis dit, mais Bernard Cazeneuve, c'est le type qui a la jungle de Calais, qui a dit, on fout un gros pied, un coup de pied là-dedans, qui dégage tous, et puis on verra ce qui se passe, quoi. Enfin, vis-à-vis des migrants, c'est pas vraiment les droits de l'homme, hein, Bernard Cazeneuve. Après, on a eu Manuel Valls, et ensuite on a eu tous les autres.
Aussi préciser quelque chose par rapport effectivement à la durée d'enfermement dans les CRA. Il y a aussi une chose particulière, je crois, c'est que quand on est retenu en CRA, pour pouvoir être expulsé, il y a plusieurs conditions. Il faut avoir certains papiers et il faut que le pays de retour soit d'accord avec d'accueillir à nouveau donc la personne expulsée, et donc il faut que ce pays délivre un laissez-passer consulaire, avec donc du coup des délais qui sont, je crois, extrêmement longs dans certains cas, et même parfois ça n'arrive jamais.
Parfois c'est le...
Il y a des pays qui font pas, hein, les laissez-passer consulaires. Typiquement, il y a des périodes pendant 6-8 mois de l'année, l'Algérie délivre pas de laissez-passer consulaires. C'est ce qui fait que, par exemple, on a eu il y a 2 ou 3 ans des passagers d'un vol Londres-Alger, mais qui faisaient escale à Roissy, et puis qui ont été obligés de descendre parce qu'il y avait un changement d'avion, et puis ils se sont retrouvés coincés à Roissy. Parce que il y avait un problème l'Algérie a dit mais non, on prend ceux qui viennent de Londres, mais ils viennent de Paris et ils n'ont pas de visa et il y a quand même des gens qui ont passé en zone d'attente, ça s'appelle, c'est un lieu de rétention, ça s'appelle la zone d'attente. Il y en a dans tous les aéroports, hein. Il y en a à Blagnac, il y en a à Montpellier, etc. Et il y en a, les deux qui ont passé le plus de temps ont dû passer 40 jours en zone d'attente, parce que personne ne voulait les reprendre. Donc on a vraiment des situations qui sont ubuesques, mais toute la question du laissez-passer consulaire, c'est que c'est une... C'est une marchandise, hein, dont on parle là, de ces gens. C'est l'Algérie qui négocie les tarifs du blé avec la France et puis qui dit ah ouais, bon ben on vous prend ni blé ni laissez-passer consulaire. On laisse plus rentrer et le blé c'est fini. Voilà, c'est ce qui s'est passé il y a 2 jours. Hein. Donc régulièrement. Les personnes migrantes qui sont sous OQTF rentrent dans des négociations qui n'ont rien à voir avec la dimension humaine. C'est tout autre chose. Donc on dit que c'est de la diplomatie, etc. Moi, je veux bien. Mais donc cette question-là, elle est assez centrale. Et il faut s'interroger quand même de cette augmentation du nombre de pays qui, vis-à-vis de la France, ont de plus en plus de réticence à reprendre leurs ressortissants, c'est-à-dire de dire à la France « Vous nous gonflez, donc comme vous n'êtes pas correct avec nous dans bien d'autres domaines, nous, on ne reprend pas les ressortissants de notre pays parce qu'on sait que ça vous en... » Voilà. Donc c'est un jeu quand même assez dangereux, puisque ça se fait sur le dos de gens qui sont quand même dans des grandes situations de souffrance, quoi.
Pardon, je voudrais ajouter quelque chose. On a vu un changement... Excusez-moi, madame, je vous donne la parole tout de suite. Oui, voilà. Allez-y.
Ouais. Juste, moi, je m'interroge quand même sur ce qui se passe en amont de l'enfermement. Pourquoi, actuellement, tant d'OQTF sont distribués, on va dire, et dans ces conditions-là, et à des personnes, justement, qui remplissent toutes les conditions pour pouvoir avoir un droit au séjour, quoi. Voilà, je me semble qu'il y a quelque chose qui se passe en amont dans la volonté de décourager les gens et de les renvoyer chez eux. Mais voilà.
La réponse, elle est dans une volonté politique. Hein ? Donc, il y a une volonté politique et elle se traduit, elle s'est d'abord traduite très clairement sur l'administration centrale. Grosso modo, l'administration centrale du ministère de l'Intérieur sous la période Sarkozy, où les hauts fonctionnaires avaient des instructions qui étaient très dures vis-à-vis de tout ce qui concerne les personnes étrangères. Et on a commencé à organiser le dysfonctionnement des services qui sont censés participer de l'accueil des étrangers. Et ensuite, il y a eu une organisation pour quand même harmoniser sur tout le territoire. Et donc, ça passe par les préfets. Et donc, effectivement, moi, la période que j'ai vécue, où je suivais de près, puisque dans ma commission d'enquête, je pouvais convoquer les préfets pour venir jurer la vérité, toute la vérité, devant un parterre de parlementaires. Donc, je me faisais plaisir. Et donc, j'ai vu un petit peu comment ça se passait. Et les préfets ont des promotions. Il y a plusieurs critères. Mais il y a un des critères, c'est quand même cette question de l'efficacité migrant. Donc si on n'a pas des chiffres suffisamment élevés sur les OQTF, sur l'enfermement, on n'est pas un bon préfet. À l'heure actuelle, c'est manifeste. Et il y a une attention toute particulière quand même sur cette question du ministère de l'Intérieur, parce qu'on pense que le ministère de l'Intérieur, ça gère uniquement l'ordre public et puis... depuis Sarkozy, de ce fait, l'ordre public et l'immigration, hein, puisque c'est à partir de vraiment de Sarkozy qu'on a mis dans un même ministère les étrangers et l'ordre public. Sous-entendu, problème à l'ordre public, les étrangers. Bref, ce qu'on oublie, c'est que la préfecture, c'est les services déconcentrés de tout ce qui concerne la vie, alors de nous, mais des migrants. C'est le préfet qui s'occupe de l'hébergement. C'est le préfet qui s'occupe des mineurs non accompagnés. C'est le préfet qui s'occupe l'obligation de scolarisation. C'est le préfet qui doit s'occuper de s'assurer que l'aide médicale d'État arrive à temps, etc. Parce qu'il y a plein de problèmes, hein, sur ces questions. Et donc, ce qu'on ne voit pas, c'est que En inséminant au niveau du ministère de l'Intérieur quelque chose de très précis sur les personnes migrantes, c'est pas seulement dans la justice ou dans l'ordre public ou parce que quelqu'un s'est fait arrêter dans le métro, il n'avait pas de ticket. C'est dans tous les domaines qu'on a insufflé cette logique contre les migrants. Dans tous les domaines et dans tous les départements de France, puisqu'il y a des préfets à la tête de tous les services de l'État dans chaque département. Et il y a, en gros, il y a les recteurs pour l'éducation qui échappent aux préfets, et puis peut-être les agences régionales de santé. Mais sinon, tous les services dans tous les domaines, tous les services publics sont régentés par le préfet. Donc quand on dit « Allez, chasse aux migrants, et les meilleurs, vous aurez la préfecture de région de Haute-Garonne, alors que vous êtes amende, machin », et donc on se retrouve avec des préfets qui font un zèle pas possible dans des départements où on n'a jamais entendu le moindre problème concernant les migrants. C'est ça la logique, hein, du truc. Donc c'est une volonté politique. C'est une volonté politique qui est derrière ça, mais qui est passée haut la main maintenant dans toutes les strates de l'administration. Donc on a un sérieux problème, hein, sur ça.
Excusez-moi, je voudrais compléter ce qu'on vit au niveau des juges de liberté aux audiences récemment, enfin récemment depuis quelques mois. Il y a eu une évolution quand on disait « Ah oui, les pays d'origine ne le veulent pas parce qu'ils sont ceci, ils sont cela, enfin, ils ne veulent pas les gens qui posent des problèmes, tout ça. » Bon, ça, c'était quelque chose qui courait un peu dans la société, dans notre société, comme pour justifier que ces personnes, donc c'était des personnes intraitables. Bon, ça n'a pas tout, ça n'a pas été le cas, mais ça, on communiquait un peu dans ce sens, dans certains milieux. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que quand le refus qu'il y a des pays à le recevoir, c'est réel. L'Algérie ne donne pas de laissez-passer, mais parce qu'elle a des problèmes à régler avec la France. Et par rapport à ça, ce qui est, je rejoins la position du préfet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui rentre au CRA, il passe 3 jours pour voir le juge, 28 jours s'il est retenu, 28 jours de plus, donc 26, donc ça fait 30. Ensuite, donc, il revient devant le juge 30 jours après, mais la préfecture a rappelé le pays d'origine pour le laisser passer parfois la veille de l'audition. Donc, il n'a pas de réponse. Donc, il n'y a pas de relance depuis 30 jours, dont le retenu est resté 30 jours pour rien. Et il peut être retenu encore 30 jours de plus, donc ça fait 60, et après, ça fait 2 fois 15 jours. Pour les 15 jours, parfois, il est encore gardé, tout en sachant que pour l'Algérie, il n'y aura pas de laissez-passer, mais le représentant de la préfecture dit, pousse je ne sais pas comment définir sa position, il dit « Ah, mais on ne sait pas si pendant ces 15 jours, même les 15 derniers jours, pour aller jusqu'à 90 jours, qui est le maximum et où ils seront obligés de les libérer, eh bien, il y a la préfecture dit « Mais on ne sait pas si pendant ces 15 jours, on n'aura pas à le laisser passer, donc dans le doute, alors qu'il est écrit dans la législation que on ne garde la personne les 15 derniers jours que si on est vraiment dans la certitude d'avoir un laissez-passer. Parce que 90 jours, c'est plus de la rétention, c'est de la prison. Enfin, déjà dès le début, tels qu'ils sont traités. Mais là, donc, voilà, je voulais ajouter ça. Ce que tu disais sur les préfets, on le constate, oui. Oui,
en fait, en disant que les CRA, en fait, c'est des zones de non-droit incroyables en général, etc., et que l'immigration, ça a toujours été une variable d'adaptation du capitalisme. Autant on a fait rentrer des millions d'immigrés qu'on avait besoin de travailleurs, etc., et maintenant, c'est les situations économiques changent, etc., les rapports internationaux, le contexte international change. Hein. Par exemple, sur l'Afrique de l'Ouest, où les Français se sont quand même fait gentiment virer, alors qu'il y avait des accords de bipartite de transit de migrants, et que là, maintenant, c'est bloqué parce que, voilà, on n'a plus de caserne. Voilà, donc, en gros, c'est pour dire quand même que les CRA, c'est quand même des sacrées zones de non-droit et que, je pense que les politiques, à plein d'égards, sont devenues très peu efficaces et que c'est au monde associatif, aux citoyens, de se préoccuper de ces problèmes et de les prendre en charge.
Merci beaucoup.
Oui, on dit que le capitalisme ne crée pas ce dont on a besoin, mais juste ce qui est profitable. Et l'organisation de la misère des gens qui viennent de l'étranger, elle a quand même... Elle profite. Elle profite. Il y a quand même énormément de migrants, de sans-papiers qui travaillent. Ce qui est formidable, c'est qu'ils ont une feuille de paye. Ils sont reconnus par la CEDIC. Et donc, ils sont reconnus comme travailleurs en France, mais ils ne sont pas reconnus comme ayant droit d'être sur le sol français.
En fait, actuellement, ça ne date pas d'hier, en fait. Hein, si les villes voulaient vraiment efficacement, comme ils disent, vider leurs migrants, en fait, ils n'en ont absolument pas la volonté, hein, parce que l'immigration profite encore beaucoup de gens. Et on voit aussi au niveau de la gestion des CRA, des centres de rétention, etc., qui ne mettent même pas les moyens pour, s'ils voulaient vraiment, comme ils disent, arrêter l'immigration. En fait, c'est vraiment c'est schizophrénie, quoi. C'est,
Mais construire des CRA, on voit quand même pas, d'une part, à quoi ça sert, mais surtout par rapport à une politique qui voudrait limiter l'immigration.
Oui, non, mais ça...
Moi, j'ai toujours pas compris rationnellement comment ça marche. Hein.
Je vous rassure, moi non plus.
Je ne sais pas si ça ajoutera quelque chose, mais à mon sens, le projet, c'est pas d'arrêter l'immigration. On sait consciemment qu'on a besoin. Enfin, on est en Occident, on a besoin des migrants pour faire plein de travail. Ce qu'il y a, c'est qu'on veut une immigration contrôlée. On veut une immigration où les gens viennent avec un visa pour travailler, sur une période bien précise, visa qu'on leur renouvellera ou pas, et avec des titres de séjour qu'on renouvellera ou pas, c'est-à-dire des gens qui, quand on aura besoin d'eux, ils seront effectivement ici, et quand on n'aura plus besoin d'eux, ils repartiront. Actuellement, je pense que la politique actuelle et ce qui est c'est toute cette politique de distribution d'OQTF, les CRA et les expulsions, c'est qu'effectivement, une personne qui rentre sur le sol français sans papier, cette personne-là, on aura de cesse de la faire partir. Voilà. Et même si elle est intégrée, si elle travaille, si elle arrive à prouver que ses enfants sont scolarisés, que ses enfants ont des projets d'études, qu'elle est reconnue socialement, cette personne-là, on va lui rappeler sans cesse qu'à un moment, elle est arrivée de façon illégale ou suite à une demande d'asile où elle a été déboutée du droit d'asile. Donc à un moment, une OQTF a été prononcée contre elle et donc on aura de cesse d'exécuter cette OQTF. Ce qui, dans les faits, ne se feront pas. Mais cette personne-là, une OQTF qui a été prononcée à un moment... Enfin, c'est ce qui se passe actuellement. Je ne dis pas que ça sera... Mais actuellement, c'est ça. Une personne qui a eu une OQTF à un moment, au niveau administratif, enfin, elle sera considérée comme, à un moment, vous êtes illégal, on a décrété que vous n'aviez pas à être sur le sol français. Retournez dans votre pays. Par contre, des gens, et c'est ce qui se passe actuellement... On le sait tous, l'hôpital fonctionne avec des personnes qui viennent des pays étrangers pour travailler à l'hôpital, des étrangers qui viennent travailler en France, il y en a plein. C'est pour ça qu'on ne veut pas limiter l'immigration, on a besoin de l'immigration. Par contre, on veut une immigration contrôlée. Et par contre, on ferme la porte à des gens qui, effectivement, sont en danger dans leur pays, font une demande d'asile, des gens qui viennent ici parce qu'ils crèvent de faim dans leur pays, des gens qui viennent ici parce que, bon, pour plein de misères qu'ils ont... Et là, par contre, cela, on leur ferme la porte au nez. En fait, on ne veut plus accueillir au sens de accueillir la détresse, les gens en danger, les gens en détresse. Ça, il n'en est pas question. Voilà, on veut accueillir des gens. Enfin, ce n'est plus de l'accueil. On veut faire venir les gens dont on a besoin pour pouvoir les faire retourner dans leur pays quand on n'en a plus besoin. Voilà. Enfin, je me suis un peu... voilà, mais je crois que c'est ça actuellement. Bon, alors, ce n'est pas vraiment le sujet, puisqu'ici, le sujet... Et le CRA, on peut penser que ça participe de ça, parce qu'enfermer les gens, ça veut dire qu'on projette... Enfin, pour le citoyen lambda, ça veut dire que si les gens ils passent 90 jours en étant effectivement enfermés, et qu'on doit les expulser et qu'on ne peut pas les expulser, c'est vraiment leur coller une image de... d'étrangers indésirables, dangereux. Donc tout ça, c'est pour effectivement... c'est toute une politique de stigmatisation d'une population étrangère. Voilà. Mais donc, par contre, on ne se privera pas d'utiliser leur potentialité quand on en a besoin, et on le voit, y compris... Alors voilà, l'exemple de l'hôpital, par exemple, c'est un des meilleurs exemples. Voilà. Bon, par contre, ça ne fait pas du tout avancer le débat. Et effectivement, je rejoins quand même quand vous disiez que je crois que la politique, elle est claire. La politique actuelle de notre pays, elle est claire. La politique au niveau européen, elle est claire. Et qu'effectivement, je vous rejoignais quand vous disiez qu'actuellement, sur quoi on peut se reposer, c'est sur les mouvements associatifs, c'est sur les personnes qui se regroupent pour accueillir, parce qu'effectivement, ça existe. Et je crois que c'est ça qui fait qu'on peut continuer effectivement à espérer, ou enfin, ça donne du sens, disons, à ce qu'on fait. Mais politiquement, malheureusement, bon. Enfin, peut-être ça va changer, mais pour l'instant, la politique, elle est claire.
Bon, je pense que vous avez abordé plusieurs questions, vous vous êtes positionné. Parfois, vous avez parlé de honte. Je pense que enfin, je veux venir un peu plus dans ces histoires de QTF, mais je pense que qu'il faut clarifier ce qui est de notre position et ce qu'on dit on, parce qu'on inclut d'autres personnes qui on ne sait pas qui c'est. Par rapport à un débat. Après, je suis d'accord avec certaines choses que vous avez dites, mais par rapport aux OQTF, voilà une question, voilà un domaine dans lequel on y met beaucoup, chacun y met ce qu'il veut dans un OQTF. Or, il y en a de différents types d'OQTF. Je veux dire que de façon générale, je crois que je peux affirmer ça, que de façon générale, une grande partie des lois de la politique migratoire sont-elles qui créent des problèmes. Et je vous donne des exemples. Quelqu'un qui vient il y a peut-être 10 ans, qui venait voir sa famille avec un laissez-passer tunisien. Pas un laissez-passer, avec un visa tunisien. Donc un visa de touriste. Il était là. Et quelqu'un de sa famille lui disait, mais tu sais, moi je travaille à tel endroit, mais il avait ses papiers, je travaille à tel endroit, ils ont besoin d'ouvriers, et tu pourrais très bien faire ça. Donc cette personne s'est laissée tenter de rester, même si elle n'avait pas de problème, de gros problèmes dans son pays, mais il pensait que de travailler, d'offrir son travail en France, il pouvait le faire. Bon, mais il se trouvait donc qu'il a commencé à travailler, il a demandé les papiers. Les papiers, il était impossible de les avoir à la préfecture parce qu'il y avait des réseaux qui se procuraient des papiers, qui les revendaient après, qu'il était impossible. Nous, on a suivi ça en tant que cercle des voisins à la préfecture, les difficultés que les gens avaient à avoir les dossiers. Après, ça a été par Internet. Internet ne fonctionnait pas. Le temps passé, cette personne s'est trouvée donc avec quelques mois de plus que le visa qu'il avait pour être en France. Il travaillait, mais quand il a voulu faire, il a réussi à avoir les papiers, ça faisait déjà trop longtemps, et là, il avait un OQTF, il fallait qu'il parte, parce qu'il n'avait pas les papiers. Et les délais des papiers, il a été un temps où il fallait que, dès qu'ils avaient un titre de séjour, il fallait tout de suite qu'ils demandent le suivant, parce que le temps de l'obtenir. Et là, je peux témoigner d'un jeune que j'ai suivi à Toulouse, qui a fait des études dans un lycée professionnel. Et ce jeune a fini, il a fait un BTS, donc ça fait déjà quelques années. Il a 27 ans maintenant. Bon, il travaille. Il était content d'avoir son permis de séjour renouvelé pour un an l'année dernière. Donc maintenant, on lui a donné un permis pour 2 ans. Donc c'est un garçon qui travaille, qui a rencontré un contrat de travail. Et voilà. Donc s'il déborde, parce que, et ça je peux vous dire que ça arrive, que si ça déborde, que la préfecture ne lui donne pas le renouvellement de sa carte de séjour, et qu'il se trouve un an sans papier, qu'il est arrêté, il aura un OQTF. Donc, je vous donne des exemples, et ça n'est parmi beaucoup d'autres, parce qu'en allant le cercle des voisins va tous les jours au juge de liberté, à l'audience du juge de liberté, parfois à la cour d'appel, et parfois au tribunal administratif, et ce sont des cas qu'on voit souvent. Et on voit aussi des gens qui sortent de prison, mais qui ont fait 3 semaines de prison. Et 3 semaines de prison, ça veut dire qu'un Français qui aurait fait la même chose, il ne jugerait pas les 3 semaines. Donc là, quand on dit que la justice n'est pas pareille pour tous, c'est vrai. Après, quand vous parlez des allées et venues, tout ça, ça pose des problèmes. Certains ne partent pas voir leur père ou leur mère parce qu'ils savent qu'après, ils ne pourront pas revenir. Mais s'ils pouvaient partir, revenir dans les familles, les grands-mères qui... toute la tradition dans les, avec les grands-parents, tout ça, que, bon, tout ça, ça ne peut pas être pratiqué de ça, mais les gens dans des situations impossibles et que, inhumaines. Donc, bon, j'entends ce que vous dites, mais la politique migratoire, elle doit résoudre ce genre de problème. Vous êtes citoyenne, vous l'exprimez, ça doit remonter. Il y a des députés qui doivent entendre votre avis et il faut que les députés aussi se manifestent, qu'ils fassent des réunions, pas seulement quand c'est la campagne, mais qu'ils rendent compte de leur travail, parce qu'il semble qu'il n'est pas tellement, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont à rendre compte à leurs électeurs. Les députés. Je pense que dans la salle,
il y a un sujet à traiter quand même. Et ils n'ont pas que celui-là. Moi, juste un mot sur. On veut juste des étrangers avec des papiers pour travailler en face des emplois. Et là, c'est le député macroniste qui vous parle. Moi, je crois que non. On veut avoir des clandestins qui coûtent pas cher parce qu'on est dans un système ultra-libéral et qu'un clandestin, ça a la trouille de tout et donc on peut le faire travailler pour que dalle. Le système, il est là. On est sur l'exploitation. Mais bien sûr que, mais on est sans limite. Moi, j'ai travaillé sur plusieurs sujets sur l'action de la France en Afrique, donc je pense qu'on pourrait discuter pas mal sur les exportations d'armes. Et je me suis aperçu d'un truc qui est absolument génial, c'est que les armes, une arme, ça traverse beaucoup plus facilement les frontières que les gens. Voilà. Et donc, une fois qu'on est rentré un petit peu dans cette réflexion, on s'aperçoit que les migrants sont victimes d'un système où la dimension humaine n'a pas trop de sens. C'est le système qui est comme ça. Il est comme ça au niveau international. Et on le revalide en permanence dans le système français. Donc on n'est pas sorti de ce moment-là, bien évidemment. Et par ailleurs, à mesure que les conflits s'empilent les uns après les autres. Alors, fort heureusement, on entend parler du conflit en Palestine. Mais il y a des conflits qui sont générateurs de déplacements de population encore plus importants. Là, en ce moment, c'est au Soudan notamment. Donc, des vagues migratoires et des gens qui se jettent là où ils peuvent. On est en train d'en produire quantité et quantité. Et quand on regarde, quand on fait une analyse géopolitique du Soudan, c'est pas compliqué de comprendre. Il y a deux généraux qui s'affrontent. Et il y a des marchands d'armes qui sponsorisent un camp et d'autres marchands d'armes qui sponsorisent l'autre camp. Donc tant que ça marche puis qu'on écoule des armes, ça continue. Et donc on a une responsabilité qui n'est pas seulement directement sur les personnes qui viennent, mais on a une responsabilité qui est extrêmement forte sur les pays d'où ils viennent. Et cette responsabilité-là, on en parle très très peu. Et alors s'il y a un domaine, moi j'étais à la commission des affaires étrangères la plupart du temps à l'Assemblée nationale, s'il y a un domaine où le gouvernement est hors de contrôle et fait ce qu'il veut, n'importe quoi, dans tous les sens, c'est le domaine des affaires étrangères. Parce que, évidemment, quand on achète sa baguette, on n'est pas en train de se dire « Non, mais ce qui se passe en Israël en ce moment, je m'en fous. Au final, ils sont loin. Au Yémen, moi, pendant 2 ans, j'ai parlé du Yémen. Tout le monde me disait mais qu'est-ce que t'en as à foutre des gens au Yémen, quoi ? C'est quoi cette histoire ?» Ouais, ben vous verrez le jour où ils vont tout faire péter dans la mer Rouge et puis que vous aurez plus de pétrole, vous verrez bien. Bon, bref. Donc on est dans un système mondialisé où la France a quand même une volonté d'influer dans bien des régions et elle influe pas toujours, voire elle influe assez souvent dans un sens assez négatif. Et donc, il y a une part de responsabilité qui est assez étonnante. Moi, j'étais éberlué par l'action de la France au Mali, où au Mali, dans le même temps, je suivais des Maliens qui faisaient une demande de titre de séjour, et on disait « Non, 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 Malien, pays sûr », parce qu'il y a une classification, « pays sûr, le Mali, vous y retournez ». Et dans le même temps, on avait des militaires, sans autorisation du Parlement, qui étaient en guerre au Mali, là, tranquillou, pas d'autorisation du Parlement, donc c'est pas légal, mais personne dit rien. Et pourquoi on a des militaires ? Mais parce qu'il y a des terroristes partout, vous comprenez ? Et donc, d'un côté, on dit « Ah non, 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 vous rentrez chez vous, c'est un pays sûr », et de l'autre, « Ah ben non, on a nos militaires là parce que c'est plein de terroristes ». Alors là, on est là, mais on se dit, donc il y a quand même un problème majeur dans notre organisation. Le problème majeur, c'est comme les finances qui partent en cacahuète. Hein. À partir du moment où il n'y a personne qui contrôle, ça ne va pas. Donc un des éléments qui fera changer les choses vraiment, c'est quand on décidera que les parlementaires, ils font leur job, ils contrôlent le gouvernement, les citoyens, ils contrôlent les parlementaires. Et on va pas voter pour celui qui fait de la com, on va voter pour celui qui bosse et qui fait son job de parlementaire. Mais ça, pour l'instant, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Donc ça, c'est un problème. Et ensuite, dans les services publics, bah, évidemment, la dette, y a plus de contrôleur de rien. Je sais pas si vous avez vu l'émission, une école privée, en moyenne, vous savez tous les combien c'est contrôlé ? Une école privée, on donne de l'argent. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, hein, mais tous les 1500 ans. Voilà. Donc, on en est là. Donc, il y a un problème, c'est quand même cette question du contrôle. Et moi, j'ai fait cette commission d'enquête. On travaille sur des migrants, c'est-à-dire des étrangers. J'ai ouvert la commission d'enquête, j'ai déposé un texte de loi pour pouvoir l'ouvrir, etc. C'est un truc un peu compliqué, à la commission des affaires étrangères. Et au début, ils n'en voulaient pas. Ils me disaient « Non, non, tu vas à la commission des lois ». Je disais « Mais les étrangers, vous m'en... Je ne veux pas aller voir du côté du ministère de l'Intérieur. Les étrangers, ça doit être géré par les affaires étrangères. Mais vous savez qui délivre les visas ? C'est plus les services consulaires, c'est plus donc le ministère des Affaires étrangères, c'est le ministère de l'Intérieur. Ah ouais. Donc à partir du moment où tout glisse comme ça, les autorisations de travail, c'était le ministère du Travail jusqu'en 2021. Ah ben maintenant, c'est le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous voulez ? Si tout glisse et puis jamais personne contrôle, jamais dit rien, oui, ça avance comme ça. Donc il y a un problème, c'est où sont les garde-fous ? Normalement, dans une démocratie, il y a cette histoire à la Montesquieu, là, l'équilibre des pouvoirs, hein, tout le tralala. Bon, on se contrôle les uns vis-à-vis des autres. À partir du moment où ce système de contrôle n'est plus du tout actif, j'ai pas en tête un âge d'or en France où c'était parfait. Hein, c'est pas ça. Hein. La démocratie parfaite, on sait que c'est un idéal et qu'on court après, mais on l'atteint pas. Mais quand même, là, on a un problème majeur, c'est que les systèmes de contrôle, ils sont en train de tous s'effondrer les uns après les autres. Les autorités indépendantes, bon, le président actuel les zigouille toutes les unes après les autres, donc forcément, c'est aussi un problème. Mais on ne sent pas quand même un engouement derrière pour dire c'est un scandale, vous avez supprimé telle ou telle autorité. Évidemment, on se dit on supprime les contrôleurs du fisc, bah, comme ça, ouais, on se dit on va échapper à l'impôt, à la fraude. Hein. Mais on est con, hein. Vraiment, on est con, hein. Sauf si on est multimilliardaire, mais bon, c'est un autre sujet. Donc, non, cette question-là, elle est quand même hyper importante. Et sur la commission d'enquête, c'était d'identifier si notre pays respectait le droit vis-à-vis des étrangers, le droit français, le droit international, auquel la France a accepté d'être partie, pas des traités auxquels on n'est pas partie, hein, ceux auxquels on est partie, et si on respectait la dignité. Et donc, on a fait un travail, on était 60 députés. Moi, je présidais ça, mais je faisais pas tout avec mes petites mains. C'est pas, et pendant 6 mois, on fait un travail d'évaluation qui est énorme, et avec un pouvoir de contrôle qui est le plus fort à l'Assemblée.
Donc ce travail de 6 mois où on a passé à la moulinette tous les services publics qui peuvent être en rapport de près ou de loin avec des personnes migrantes. Tous. On a tout passé à la moulinette. On arrive à la fin, on rend un rapport, on explique. La promesse républicaine n'est pas respectée quand il s'agit des étrangers. C'était pas moi, président, qui avait fait le constat. On a voté le rapport. Voté par les représentants tels qu'étaient formés au moment de l'Assemblée nationale. C'était pas l'extrême gauche, hein, l'Assemblée nationale en 2021. Donc, on a voté ce rapport en disant qu'il y avait de la maltraitance d'État, que la puissance publique ne respectait pas la promesse républicaine, ses engagements par rapport aux lois, etc., etc., etc. Et qu'en ont fait les politiques, donc le pouvoir exécutif, il en a fait une nouvelle loi où il n'a rien repris des propositions qui étaient dans le rapport, bien évidemment. Mais la chose sur laquelle je veux attirer votre attention, parce que celle-là me semble assez importante, c'est que les médias ont pas relayé le rapport. Ça arrangeait pas les médias. La doxa des médias, c'est pas celle-là, donc ça les intéressait pas. Moi, j'ai fait des plateaux télé en veux-tu, en voilà, parce qu'il y avait 25 migrants qui étaient morts dans la Manche, là, en 2021. Mais le rapport, ça intéressait personne. Moi, j'ai pu avoir un petit peu de temps de parole pour parler de cette commission d'enquête, pas parce que j'avais fait cette commission d'enquête, mais parce qu'il y avait eu, et que cette fois-là, ça avait un peu marqué les esprits au moment. Maintenant, il y en a régulièrement, tout le monde s'en fout. Mais bon, le fait est que cette commission d'enquête, c'était quand même une évaluation et un contrôle par les représentants de la nation, une photographie. On a associé les chercheurs, enfin, on a fait un travail avec des sociologues, des historiens, des démographes. On a vraiment travaillé avec tout ce qui peut se faire. Et là, on arrive sur une situation où, juste derrière, un an après, l'exécutif pond une loi où c'est à peu près tout à l'opposé. Il y a une chose qu'ils ont gardée, mais qu'ils n'ont pas mis en application, donc c'est dans la loi, mais c'est contre l'enfermement des enfants dans les CRA, où ça allait être génial, cette loi, puisqu'on n'allait plus enfermer les enfants, sauf que pas de chance. Les articles de la loi, ils ont été promulgués, mais par contre, sur le terrain, on continue de les enfermer quand c'est plus pratique. C'est une question d'être pratique. Voilà. Donc, y a bien des lieux d'interpellation. Il y a les députés, mais y a les services publics, les gens qui sont dans les services publics. Il y a plein de gens qui sont dans les services publics qui sont, passez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, qui sont malheureux dans la manière dont ils travaillent. Il y a les gens qui travaillent dans les services de préfecture sur l'accueil des migrants. Au niveau psy, ils usent et abusent du psy, hein, parce que c'est des positions qui sont extrêmement difficiles. Quand on s'occupe d'un cadavre, il y a bien des fois où on se demande comment se passent les choses, comment ça se fait qu'on en arrive à des situations qui sont extrêmement complexes. Tous les gens qui sont dans les services publics, fort heureusement, c'est des gens sur lesquels il faut s'appuyer, qu'il faut aider. Quand on est associatif, il faut être super bienveillant avec eux et puis aller chercher ce qu'ils peuvent, à un moment donné, quand même apporter de plus par rapport à des fois où ils sont dans la contrainte et où ils amènent du moins. Donc, on a des choses à faire beaucoup sur le terrain, sur la proximité. Là, vraiment, là, c'est un travail hyper important. Et les gens qui sont dans les structures, il faut vraiment avoir en tête qu'il faut les aborder positivement et il faut les aider. Il faut les aider. Hein. Les gens qui sont dans les services publics, ils crèvent à l'heure actuelle. Hein. C'est trop dur. Hein. C'est trop dur. Hein. Et les profs, etc., partout, hein, c'est difficile. Vous parliez de l'hôpital public, c'est assez complexe, hein, le moment. Hein. Il est en ligne sur Internet. Vous tapez commission d'enquête Nado Migration et vous l'avez. Alors moi j'ai commis l'introduction du rapport parce que j'avais ma petite plume et je faisais ce que je voulais dedans. Donc je me suis fait bien plaisir. Et après toute la partie proposition, etc. C'est le travail de la commission.
Ouais. Moi, c'était pas tellement une question, en fait, c'est plus des affirmations. C'est petit 1, par rapport au CRA, souvent il y a des gens qui disent ouais, ça ressemble à une prison, en fait, sauf que les gens vont pas y être dedans.
C'est une prison.
Oui, non, mais moi je tiens à dire que c'est pire qu'une prison, en fait. On va peut-être pas parler de camp de concentration, on n'en est pas exactement là, mais on est entre la prison et le camp de concentration, pas entre le CRA et la prison.
Non. Moi, dans mon cadre de parlementaire, j'ai bien utilisé mon droit de visite de tous les centres de rétention, tout ce qui se fait là. Non. La prison, c'est encore quelque chose de plus difficile, notamment du fait de la surpopulation, qui est quelque chose qui est absolument abominable. La situation de nos prisons, c'est quelque chose qui est... Mais, c'est pas pensable qu'on en fait, accepte. Donc les CRA, c'est comme les prisons pas trop surpeuplées.
Ce que je dis, c'est par rapport au mot aussi, en fait. Parce que le fait d'employer le mot prison quand on veut changer le mot CRA, en fait, ramène au discours, entre autres, du nouveau ministre de l'Intérieur et de ceux d'avant, et justifie quelque part leur délire de dire que c'est des criminels, etc., etc. Donc il faut qu'on dise que les situations, effectivement, sont affreuses et c'est de l'enfermement, mais il ne faut pas qu'on compare à une prison. Parce que sinon, on rentre dans leur jeu. C'est ça que je veux dire.
On met en prison des gens qui n'ont rien à y faire.
Oui, mais dans ce cas, il faut bien appuyer sur le truc qu'ils n'ont rien à y faire. Et comme ils jouent beaucoup sur les mots, ces gens-là... Voilà. Et si je peux finir, j'avais un autre petit truc à dire, parce que tout à l'heure, ça parlait sur les OQTF, sur le travail, sur... J'étais tout à fait d'accord avec ton analyse sur le fait que ça permet d'avoir des gens à pas cher et que ça joue le jeu de la mondialisation. Mais un autre point aussi sur les OQTF, c'est de pas avoir des gens justement du Mali ou encore plus du Kurdistan ou ce genre de choses qui ouvrent leur bouche, en fait. Parce que dès que tu vas dépasser les limites, on va te mettre en CRA et que t'as 90 jours de prison gratuit, boum, c'est parti, quoi. Donc si t'es... Ah non, mais moi, j'ai vu des gars des YPG de Kurdistan à Ventimiglia qui, dès qu'ils ont eu leurs papiers, sont revenus à Ventimiglia aider les autres réfugiés. Sauf que ça, ils ne pouvaient pas le faire tant qu'ils n'avaient pas de papiers. Sinon, ça veut dire qu'ils finissaient en CRA pendant 90 jours, à le minima.
Le problème du CRA, je suis désolée de prendre la parole comme ça, avant que comme l'a donné, mais le problème du CRA, c'est que en fait, on a augmenté le nombre de jours de séjour, de possibilité de garder le retenu au CRA. Et quand je parlais de comment les lois font qu'on rend les personnes de plus en plus fragiles et malades, ça, c'est une raison. C'est-à-dire c'est que ils restent un nombre de journées qui n'est pas normal, et ensuite, enfin, qui n'est pas normal pour la vie de quelqu'un qui va vivre avec quelqu'un d'autre, dans le meilleur des cas, et s'il s'entend tant mieux, mais dans une chambre à deux, et qu'ils n'ont rien à faire de toute la journée. C'est dit dans le film par les juristes de la CIMAD. Et donc c'est là qu'ils pètent le plomb, les gens, c'est-à-dire qu'ils deviennent malades psychologiquement. Et il y a des gens qui sont malades psychologiquement et qui relèvent de l'hôpital psychiatrique. Le médecin du CRA ne le reconnaît pas en tant que tel. Et ça développe d'autres problématiques qui vont vers la maladie. Par rapport à la commission d'enquête et aux résultats de la commission d'enquête, moi, dans mon travail, j'ai essayé d'éterrer le résultat. Le rapport, et donc en fait c'est un travail qu'on a commencé, qu'on a essayé de travailler avec Sébastien, tu n'en as pas parlé, mais je tiens à le dire, et ça, les conclusions auxquelles vous êtes arrivés n'ont fait qu'empirer, et que les préconisations que vous avez faites, personne ne les a écoutées. C'est ce que tu avais dit. Donc, c'est ce que j'avais relevé en lisant le rapport, et c'est sur ça que j'ai basé l'échange ou l'interview qu'on a eu pour éclairage. Et je crois que Pascal...
Pour faire la transition, avant-hier, il y avait un article... La transition avec Pascal qui va parler. Il y avait un article dans Mediapart de Nejma Brahim. Si vous regardez Mediapart, ça peut être inégal, mais sur les questions migratoires, il y a vraiment un travail sérieux, une équipe qui travaille très bien. Donc on a des choses très intéressantes. Et Nejma Brahim, là, elle est allée au Caire. Passer une quinzaine de jours, et donc il y a un article, elle est allée à la rencontre des réfugiés en provenance de Gaza qui sont passés par la frontière avec l'Égypte, et elle raconte un petit peu leur quotidien une fois arrivée au Caire, qui est complètement hallucinant. Et quand on lit ça, et ça laisse juste une chose en tête qu'il faut avoir, c'est que les migrations le volume de gens qui viennent en France, c'est une demi-goutte d'eau par rapport aux migrations qui existent sur la planète. Les 90% des migrations sont des migrations régionales, c'est-à-dire d'un pays au pays voisin. Mais ce reportage de Nejma Brahim, je vous conseille de le regarder, d'abord parce que c'est bien écrit, qu'elle a pris le temps d'écouter des gens qui viennent de subir un traumatisme dont manifestement ils sortiront pas indemnes à aucun moment de leur vie, et ça fait la transition toute trouvée avec ce que va nous dire Pascal, qui connaît bien la situation à Gaza. Voilà, Pascal.
Merci déjà. Crass, ça m'a fait penser à la capacité à raisonner autrement et à résister autrement aussi. Parce que clairement, dans ce monde, on en a besoin. Donc je voulais vous lire un poème, mais j'ai oublié mon téléphone. C'est le poème qu'on a reçu il y a 2 jours, mais je l'enverrai à Joseph pour que ça soit mis sur la radio, à Sainte-Afrique, d'une poète de 37 ans qui vit à Gaza Nord. Gaza Nord est en train d'être évacuée depuis maintenant 72 heures. Donc c'est absolument terrible. Elle nous disait que c'est son dernier poème. Je ne peux pas vous le raconter. Il est très triste, mais très puissant. Et il nous met vraiment face à nos responsabilités. Donc ce qui est vraiment désespérant, c'est la non-application du droit. C'est ce qu'ils nous disent tous quand on va là-bas. Rentrez chez vous parce que le droit n'est pas appliqué, parce que vos citoyens ne sont pas assez mobilisés pour mettre la pression sur les politiques et faire appliquer le droit. Et on meurt de ça. Donc faites la fête, buvez du vin. Faites ce que vous voulez, mais ne vous regardez pas dans le miroir, parce que vous verrez notre sang sur votre visage, vous verrez les traces de notre corps dans vos mains, et vous ne pourrez pas parler à nous de vos enfants. Pourtant, nous vous aimions. En gros, c'est... vous écouterez le poème, il est vraiment très beau, mais il est très grave. Et notre responsabilité aujourd'hui, elle est vraiment extrêmement importante, très engagée. Donc l'espérance, c'est que, oui, nous soyons là, qui a un peu moins de tête blanche et un peu plus de tête jeune, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Heureusement, dans la rue de Paris, il y a des jeunes, mais les jeunes ont été franchement matés quand même au mois de mai et de juin. Donc là, ils commencent à revenir un petit peu. Il y a quelques mouvements universitaires. J'étais à Paris là toute la semaine en attente d'un départ au Gaza, mais on est bloqué. On devait partir lundi dernier, on a été bloqué par les Israéliens qui tiennent le seul point de passage aujourd'hui. On a essayé de partir au Liban, on ne peut pas partir au Liban. Donc si ça vous intéresse, à la sortie, il y a des petits papiers pour nous aider à mettre la pression sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qu'il en reste, parce que pour avoir discuté avec une juriste internationale qui a 90 ans, qui connaît bien tout ça depuis très longtemps, elle décrit quand même une structure en soins palliatifs qui n'est pas reconnue, et Netanyahou nous le montre bien, en tirant sur les casques bleus et en interdisant donc au secrétaire général de se présenter en Israël. Donc vraiment, on est dans un moment de non-droit. Ce qui nous a été présenté tout à l'heure par Sébastien est quand même aussi fort sur la non-application de la Constitution. Donc dans l'espérance aussi, c'est que moins jeunes et plus jeunes s'engagent. Je pense que Sébastien, ton exemple est quand même intéressant. Tu es bon guitariste, mais je pense que ça serait bien que tu retournes à la politique lors de la prochaine dissolution qui aura lieu dans pas longtemps et qu'il y ait plein d'autres personnes qui y aillent avec cet esprit-là. Donc merci à vous.
Eh bien, merci à tout le monde. On va clôturer donc cette soirée par un petit pot qui vous est offert à l'entrée. Il y a également en vente donc les DVD des dernières réalisations de Neus Viala, ces superbes documentaires, celui que vous venez de voir et puis d'autres. Vous expliquera, je pense. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé à cette soirée. Je pense que ce qui fait du bien, c'est effectivement qu'il y ait du monde, qu'on soit de plus en plus nombreux. Et qu'une info différente passe enfin sur tous les médias. Donc merci Radio Sainte-Afrique encore de faire passer le message et tous ces messages qui sont des petites portes peut-être pour aller vers quelque chose de plus universel. Merci.
Merci d'avoir retourné le micro.